bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Alors aujourd'hui, je reçois de nouveau JB. Salut JB.
Salut Stéphane, salut Gérard.
Alors, ton blog, c'est Frapper Monnaie, on va le rappeler. Oui. Et avec aussi Gérard Fouché. Salut Gérard.
Bonjour Stéphane, bonjour JB.
Alors Gérard Fouché, le mini show.
Le
mini show de Gérard Fouché. Et puis évidemment, les secrets de la monnaie dont on a longuement parlé sur Monnaie Libre, puisque ton livre... évidemment, on l'a disséqué, hein, on peut dire, et maintenant il est disponible. Alors, on attend le premier livre de JB. Tu vas nous faire un livre sur le néo-chartalisme. Hein, sans doute.
Voilà. En fait, je t'ai même apporté un exemplaire, présenté aux éditeurs, si tu voudras ajouter un coup d'œil tout à l'heure.
Ah, d'accord, tu vas le présenter. Ah, c'est déjà prêt, alors ça y est, tu as travaillé.
Là, je le présente aux éditeurs, c'est-à-dire le brouillon est vraiment super avancé. Moi, je pourrais le publier tel quel.
D'accord.
Mais après, c'est l'éditeur très certainement demandera des modifications, tu sais comment ça se passe.
D'accord, oui, bien sûr. Mais tu n'es pas obligé de passer par un éditeur. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux publier sous des distributeurs facilement.
Merci pour l'info.
Lulu.com, par exemple.
Ok, je me penche pas sur la question.
Alors, le problème, évidemment, c'est pas pareil qu'un éditeur qui va pousser ton livre, etc. Bon. Mais en général, il te pousse surtout toi. C'est toi qui fais le travail, mais il te coach, en fait. Mais bon, après, sinon, tu publies tout seul, mais c'est une autre problématique. Alors, on va rappeler ton blog, puisqu'on va parler un de tes derniers posts, puisque tu parles d'un printemps français, tu te poses la question. Un printemps français, c'est un peu le thème de l'émission, parce que la question qu'on se pose, évidemment, maintenant, on est en 2013, on est quand même 6 ans, hein, qu'on peut dire 5-6 ans après le début de cette crise financière qui en fait était une fin, parce que ça faisait quand même, on peut dire, 10 ou 15 ans que ça n'allait pas. Et bon, mais les problèmes ne sont toujours pas résolus, en tout cas pour nous. Ils le sont peut-être pour les banques qui ont été renflouées, en tout cas en partie. Et toi, tu analyses bien sûr tous ces problèmes. Et alors dans ce poste, en plus, tu reviens sur les problèmes liés à la démocratie. C'est là qu'on retrouve un peu la problématique de Monnaie Libre, puisqu'on a reçu Étienne Chouard, qui critique notre fonctionnement démocratique, et on voit bien que qui dit finance dit monnaie, et qui dit monnaie dit aussi quelque part démocratie, parce que la monnaie, et tu le dis d'ailleurs très bien, puisque c'est aussi la monnaie de tous, et donc la monnaie que l'État met en œuvre, si tant est qu'on puisse parler d'un État représentatif. Hein.
Voilà, donc alors ça c'est l'éternelle question, jusqu'où parviendra-t-on à accomplir l'idéal, ça c'est le gros problème, mais très concrètement, donc c'est vrai que le poste part d'un truc qui n'était pas tout à fait récent, c'était plutôt un rebondissement sur l'affaire des magouilles de comptes électoraux des campagnes présidentielles de 1995. Et c'est une petite goutte, mais en même temps, c'est le genre de petite goutte qui peut faire déborder le vase. C'est-à-dire, à chaque fois, il y en a une supplémentaire comme ça. On voit manifestement un déni de démocratie, un déni de l'état de droit et de tout ce dont se réclament pourtant nos autorités pour faire autorité auprès de nous. Et donc, j'ai voulu en parler, oui. Et après, plus généralement, pour l'État... Ah, c'est vraiment une question très difficile, mais je suppose qu'on aura l'occasion de développer après.
Oui, mais on peut parler quand même du sujet de ce poste plus en particulier, plus en profondeur. C'était notamment le problème du renflouement monétaire, parce que c'est ça, hein, des campagnes électorales, et notamment de la campagne de 1995, où Jacques Cheminade avait été sanctionné. Voilà.
C'est vraiment écœurant. J'ai mis à la fin du poste la fable de La Fontaine, très connue, des animaux malades de la peste. Vous savez, avec la fameuse sentence « haro sur le baudet », ou parce qu'il avait mangé une petite raie d'herbe qui dépassait de la clôture du champ, et qui ne lui appartenait pas donc. Et tout le monde se précipite et en fait un bouc émissaire. Et bien là, Cheminade, c'est le baudet. C'est-à-dire, on sait très bien que et Balladur et Chirac ont magouillé leur compte de campagne.
Ouais.
On a eu de multiples preuves, il y a même eu des morts pour les histoires de rétrocommission pas versées, etc. Tout cela n'est pas très clair, mais les attentats de Karachi, par exemple, sont très certainement liés. Il y a plusieurs procédures en cours, etc. Cerise sur le gâteau de l'écœurement, si tu me permets cette drôle d'image. sur Cheminade, qui était donc le petit candidat, vraiment le type qui n'avait aucune chance de gagner. Là, il y avait une faute peut-être formelle, mais c'est même très douteux. Moi, je pense qu'elle n'est même pas authentique. Mais ils s'acharnent depuis sur lui en disant qu'il a fauté et que donc il doit rembourser des sommes énormes. Ils ont dernièrement saisi la majeure partie de son remboursement de la dernière campagne de 2012 et présidentielle de 2012. Donc il est dans une mouise pas possible. Et donc pour rien. Et comme l'avait précisé une des personnes qui avait voté ces sanctions alors qu'ils n'avaient pas voté les sanctions contre Chirac et Balladur, c'est que justement il leur fallait une sorte de gage moral. C'est-à-dire, ils se sentaient très mal de ne pas avoir condamné ni Balladur ni Chirac. Et là, ils ont pu se faire cheminade, donc ils s'en sont pas privés. Et moi, ça m'écœurait, j'ai voulu en témoigner. Donc c'est une petite goutte, mais bon, comme D'accord. je disais tout à l'heure, une petite goutte qui fait peut-être déborder le vase de certains.
C'est là qu'on voit le lien entre, bien sûr, financement, monnaie, donc, et aussi démocratie politique, en fait.
Ah, mais c'est extrêmement lié.
C'est à la fois nécessaire pour y arriver, et en plus, c'est sanctionné à la fin voilà. de la même façon.
Mais justement, le livre dont tu as fait mention juste avant, j'ai décidé que mon titre, ce serait « Devise », parce que justement, ça a ce double sens. La devise, c'est bien sûr la monnaie, comme on parle de devise étrangère. C'est aussi la devise nationale, d'ailleurs. Mais c'est aussi la devise, la maxime. Il y a un double sens au mot devise.
Ouais, c'est vrai.
Et justement, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, contrairement au mythe, mythe libéral, mais on en reparlera très certainement. À chaque fois, le fait de se choisir un moyen de paiement au sein d'une communauté procède d'un pacte social et on ne peut pas dissocier les deux. C'est un mythe que de vouloir faire l'un sans l'autre.
Oui. Alors, on va rebondir maintenant sur l'actualité plus récente avec Gérard, parce que alors, Gérard, tu as fait ton dernier mini-show, alors c'est tout récent, hein, parce que... Tu l'as sorti, je crois, hier. Hein.
Oui.
Voilà. Sur alors un autre truc qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire c'est le lien entre politique et argent. Mais alors là, d'un truc très différent, c'est Chypre. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Chypre? Tu vas nous résumer ça. C'est un truc énorme hein, qui vient de se passer. Et là, on est en février, mars. On est en mars 2013. Non, je le dis parce que ceux qui vont nous écouter en 2014, il faudra qu'ils s'en souviennent. Qu'est-ce qui s'est passé là?
À Chypre, il s'est passé quelque chose d'assez simple. C'est une grande première dans le milieu bancaire et dans le milieu politique. C'est-à-dire que les États, pour avoir de la monnaie, sont obligés de l'emprunter. Or, là, à Chypre, le week-end dernier, on s'est aperçu que l'État chypriote avait emprunté trop de monnaie et qu'il n'arrivait pas, en gros, à en payer les intérêts. Bon. Et donc, plutôt que de renflouer les banques comme on fait d'habitude, c'est-à-dire plutôt que de créer de la monnaie ou que la banque centrale accepte de créer de la monnaie pour renflouer les banques chypriotes, eh bien, on est allé pomper sur les épargnes, sur les économies des citoyens eux-mêmes.
Ils ont voulu, parce que ça a été refusé quand même hier, et pour l'instant, il ne s'est pas passé.
Bah, on est entre deux, là, pour l'instant, mais bon, il y a du chantage des deux côtés, voilà. Il y a du chantage de la part de la banque centrale européenne et de l'Eurogroupe qui dit, voilà, si vous n'acceptez pas de renflouer vos banques avec vos propres économies, nous, on vous coupe le robinet, et on ferme vos deux banques principales, donc on vous met à la rue complètement, on vous empêche de travailler. Et de l'autre côté, il y a aussi une certaine forme de chantage de la part du gouvernement chypriote qui dit bah écoutez, nous, voilà, on ne veut pas payer, donc on va peut-être se tourner vers les Russes ou on va trouver d'autres solutions. Donc voilà, on est dans une situation qui, là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est bloquée, mais qui va forcément se débloquer, sachant que Chypre est un cas quand même tout à fait particulier qui n'est pas vraiment représentatif des autres pays européens.
Je crois au contraire que c'est très représentatif, et moi, je vois s'accumuler les signes. Les événements que j'avais vus dans les années 30, parce que dans le bouquin, j'étudie notamment les années 30. Et en Allemagne, une des dernières mesures désespérées qu'avait fait le chancelier Brüning pour tenter d'équilibrer le déficit, pardon, de faire un déficit zéro, le fameux déficit zéro, la fameuse austérité à tout prix, bien c'était justement de saisir les comptes. Alors parfois c'est emprunt forcé, parfois c'est taxe, le procédé est en gros le même. Et contrairement, très précisément pour Chypre, en gros, c'est déjà fait. C'est-à-dire que les comptes sont gelés, les Chypriotes ne peuvent plus accéder à leurs comptes, ils ne peuvent plus accéder à leurs distributeurs automatiques, n'ont plus de droits, etc. Mais la seule chose, c'est que les autorités chypriotes ont dit qu'ils annuleraient peut-être au moins en partie, enfin bref, donc ce serait renégocié. Mais en gros, c'est déjà fait. Ils vont peut-être relâcher ce qu'ils ont pris, mais ils l'ont déjà pris.
Ah oui, c'est terrible, on va peut-être le relâcher. C'est un peu comme le loup qui trappe sa proie, mais il va peut-être relâcher, c'est pas sûr. Alors évidemment, ça pose des problèmes très compliqués. J'ai envie de dire, il y a deux analyses à ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui légitime le fait que, eh bien ici, alors l'État ou la Banque centrale, ou les deux, les banquiers, bon, ou les trois, hein. Parce que si on compte les banquiers privés et la banque centrale, c'est censé encore être public en Europe, parce que, a priori, les actionnaires, c'est les États. Et les États se permettent comme ça de dire, finalement, l'argent est sur les comptes et puis on va pouvoir le prendre. Alors d'ailleurs, tu as dit quelque chose, il va falloir rebondir là-dessus, Gérard, c'est Je dis d'abord les deux points, puis tu reviendras là-dessus, c'est que en fait, l'argent déposé en banque n'est pas vraiment à nous. ça, c'est intéressant.
Pas du tout.
Et alors, et le deux, ça, c'est un truc qui peut se discuter d'ailleurs, mais bon, tu vas expliquer pourquoi. Et le deuxième point, j'ai envie de dire, qui peut se poser la question, en fait, mais pourquoi c'est même possible? C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible aussi d'avoir ce type de démarche-là, parce que l'argent est dans les comptes en banque. Évidemment, si l'argent était d'une autre façon, non pas dans un réseau comme ça, unique, parce que c'est ça aussi, c'est un réseau unique, le réseau bancaire, unique et privé, parce qu'il n'est pas public, il n'est pas vraiment sur Internet, ce réseau, il communique d'ailleurs avec des câbles tout à fait particuliers, hein, je veux dire, tout ça est très bien isolé du reste. C'est possible parce qu'on peut aussi pomper sur ce réseau unique. Donc évidemment, qui dit monnaie unique dit aussi quelque part réseau unique. Alors, c'est cette notion-là. C'est possible aussi parce que le réseau a cette forme-là. Donc il y a une double question. La légitimité d'un côté, et aussi le fait, alors est-ce que cet argent vraiment appartient aux gens ou pas? Hein? Alors tu vas Gérard, peut-être rebondir sur ce premier point.
Bah, juridiquement, c'est simple, hein. L'argent qui figure au crédit de nos comptes bancaires, c'est un argent qui figure au passif de la comptabilité des banques. Et donc cet argent réside sous forme de dette sur la comptabilité des banques. Donc si on en a besoin et qu'on va à la banque le chercher, il faut que la banque accepte de nous le rendre. Pour l'instant, il a beau figurer à l'actif de notre compte bancaire, à notre crédit, pour l'instant, il réside d'abord sur le compte de la
Alors je
banque.
vais éclaircir ce point et
Donc
c'est.
juridiquement, il ne nous appartient pas.
Je vais éclaircir ce point avant que JB peut-être attaque sur la deuxième partie. Et ça va faire le pont évidemment là-dessus. C'est qu'effectivement, on comprend mieux ton point de vue si on comprend qu'il y a deux monnaies. C'est-à-dire qu'il y a la monnaie
Oui,
bancaire qui est
bien
sur le
sûr.
compte en banque en numérique, qui est libellé euro, et il y a la monnaie papier, qui elle, en fait, ces billets de banque qui sont eux garantis par la banque centrale, pas par les banques privées. En fait, donc la quantité de monnaie numérique qui est sur les comptes n'est pas égale à la quantité de monnaie papier qui est censée avoir émis la banque centrale. C'est-à-dire que si tout le monde allait récupérer son argent, en fait, ben son argent n'a pas la même forme. Elle est numérique d'un côté parce que c'est passif dette, comme tu le disais, des banques d'un côté, et l'autre côté c'est monnaie papier. Et là, la banque centrale dirait non, non, vous n'avez pas le droit de. Je ne vous ai pas
Bien
garanti
sûr.
de pouvoir vous donner autant de billets papier. Ce que vous avez émis comme crédit, vous banque, en fait, c'était de votre
Bien
responsabilité et pas de
sûr.
la mienne.
Voilà.
Et c'est là qu'on voit que si on comprend cette double distinction de monnaie, qui n'est pas visible, puisqu'il s'est appelé euro des deux côtés, j'ai fait un post sur création monétaire une fois en disant attention, euro c'est un sigle privé ou public? Parce que si c'est un sigle, parce que quand on s'appelle Coca-Cola, on n'a pas le droit d'avoir un ministère du Coca-Cola. Alors que. C'est-à-dire que c'est une société privée. Inversement, si il y a une entreprise publique EDF, bon, l'État peut faire un peu ce qu'il veut avec les tarifs d'électricité, en donner, pas en donner aux gens, etc. Mais il n'y a pas d'entreprise privée qui peut dire que mon électricité EDF, il doit l'appeler par exemple électricité Poéo, s'il est Poéo par exemple. Dans ce cas-là, c'est sous sa responsabilité à lui. Et là,
La
il y a une
publicité est
ambiguïté.
interdite par le CSA.
Oui, bon, de ça, là on est hors CSA.
Bon,
Et alors, c'est pas
c'était
la
une blague.
publicité parce que là
Mais c'était une
je les tacle
blague.
les deux. Alors, mais tu vois, il y a cette double nature de l'euro qui est ambiguë parce qu'il y a le même nom. Et d'un point de vue du droit des marques, c'est extrêmement discutable, à moins de dire que c'est une franchise. Mais alors, ça se pose une question. Dans ce cas, si c'est une franchise, il devrait y avoir un paiement. Il n'y a pas l'air d'avoir lieu ce paiement. Bref, mais alors, et donc, et j'y vais. Alors, et c'est possible aussi de prendre cette possibilité parce que. Ben finalement, cet argent est sur des comptes dans un réseau unique et on peut effectivement dire ben on va prendre, alors que ça ne serait pas pareil si l'argent était chez les gens ou en tout cas sur des réseaux différents.
Alors, petite série de précisions.
Alors voilà.
D'abord, le réseau n'est pas vraiment unique. Par exemple, les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les non-bank banks, c'est-à-dire des banques non bancaires. Et pourquoi? Parce que justement, il y a d'un côté les banques régulées et de l'autre les banques libres, c'est-à-dire n'importe qui peut faire ses banques, même sur des dollars américains. Simplement, on n'a pas la garantie des dépôts, on n'a pas un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du réseau, on n'a pas seulement des obligations, on a aussi des droits par rapport à l'État, etc. L'argent, la banque ne nous rend pas, par exemple, notre compte courant quand elle le veut. Non. Elle a l'obligation légale, selon le contrat, de nous rendre sur demande jusqu'à un certain montant. C'est prévu dans le contrat d'ouverture du compte courant. Et si jamais elle ne le fait pas, on peut aller voir l'État en disant la banque ne respecte pas son contrat et ça peut très mal se passer pour eux, donc pour elle, pardon. C'est un peu plus subtil. Non,
On
le
n'a pas ça
vrai.
en Europe, là, parce qu'on parle de
On a
l'Europe.
notamment ça en Europe. En fait, ça a été très 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 déréglementé et c'est notamment une manière de déréglementer que de permettre d'avoir justement deux secteurs, un réglementé et un non réglementé. Et les banques adorent ça. Elles ont plein de hedge funds qui sont dans le secteur déréglementé, souvent dans des paradis fiscaux d'ailleurs, pour que ce
Donc,
soit encore moins réglementé et aussi fiscalement plus avantageux.
ça veut dire que là, la taxe chypriote ne peut pas s'appliquer.
Si, elle peut s'appliquer parce que c'est un secteur réglementé chypriote. Mais
Oui, mais sur ces banques-là, tu parles, donc qui sont déréglementées.
alors,
C'est
sur
hedge
les banques
fund.
déréglementées, c'est démerde-toi.
Oui.
C'est-à-dire,
Non, mais est-ce que
si
la
tu
taxe est
fais.
possible? C'est ça la question.
Alors, bien, ce n'est pas la même juridiction. Par exemple,
C'est
si
pas dans
sur les
l'Europe,
îles
alors.
Baléares,
C'est
par
pas dans
exemple,
l'Europe.
ça peut, mais par exemple, même simplement, si c'est Monaco. Alors, tu me diras, il y a des accords avec Monaco, etc. Bon.
Oui, mais tu parles de juridiction, là il y a un bafouement, on bafoue le droit, on annonce qu'on va prendre de l'argent sans même que ce soit, avant même que ce soit discuté au Parlement, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on va le
Ouais.
faire. Donc alors tu parles de juridiction, mais le droit, là
Alors,
Je sais même pas si on peut parler de
alors
juridiction.
là, je serais très schmittien,
Ouais.
c'est-à-dire, est-ce souvent le droit se définit avant tout par la décision de celui qui peut définir l'exception, c'est-à-dire, justement, là, on se croit, à tort, on en reparlera sans doute, on se croit obligé de, à tout prix, réduire les déficits publics. Donc, face au, entre guillemets, danger imminent, même s'il est complètement mythologique et fictif, l'état d'exception fait qu'entre guillemets, on a tous les droits. C'est de la même manière qu'on peut déclarer l'état de guerre, l'état d'exception et suspendre une quantité de droits assez impressionnante. Après, évidemment, c'est toute la question et le pacte moral, c'est-à-dire si, si c'est Monaco, à mon avis, Monaco se pliera à la France si jamais la France décide que Monaco doit un peu taxer tous les résidents français à telle hauteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait. On a conclu un accord avec Monaco en disant, bon, vous continuez à être un paradis fiscal pour les autres, mais pour tous les résidents français, vous coopérez fortement avec nous. Bref, donc après il y a des jeux de pouvoir et là on va en revenir aux racines les plus profondes, les plus antiques de l'État, c'est-à-dire bien en fait le rapport de force brute, le magma, enfin le chaos originel et que justement l'État c'est une frontière, c'est-à-dire il essaie d'imposer un ordre à partir du chaos, plus ou moins efficacement, plus ou moins
Alors,
réussi.
d'où tu sors cette thèse-là? C'est quoi ça? C'est du néo-chartalisme, ça?
Non, 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 le néo-chartisme est beaucoup
Oui,
plus restreint. Le
bien sûr, mais
néo-chartisme
ça, alors
s'intéresse.
d'où tu sors ça? D'où tu sors cette. Parce que c'est une thèse intéressante, mais d'où tu l'as. Est-ce que tu l'as.
Bah,
Ça vient de
regarde.
toi ou tu
Ah
l'as.
non, 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 regarde comment les États se fondent historiquement, par
Non, mais ça
exemple le
vient d'où?
Royaume
Est-ce
de
que tu l'as lu?
France.
Est-ce que quelqu'un soutient cette thèse ou c'est la tienne?
Non, mais il suffit de regarder l'histoire.
Non, mais quand tu dis il suffit de regarder l'histoire, c'est ta thèse. Est-ce que tu dis. Est-ce qu'il y a un auteur qui dit
Alors,
cette
j'ai vu
chose-là?
plein de bouquins d'histoire et tous ceux qui parlent de comment se fondent les États la première fois, comment l'État se crée à partir de rien, sont des rapports de domination. Et même quand l'État se crée comment dire, de plein gré, souvent c'est sous pression d'un État rival. C'est-à-dire l'État rival essaie de conquérir le territoire et les gens, pour s'organiser, pour se défendre, bah, du coup, créent une armée et dans la foulée, l'État se fait presque automatiquement. Parce que tu as besoin pour organiser les choses d'une administration, et c'est parti.
D'accord. Donc c'est bon, c'est une thèse intéressante. Alors donc tu nous dis quoi alors par rapport à ce réseau unique qui permet de dire on va prendre l'argent.
Alors, ce réseau. Alors là, c'est pas une très bonne. Là, on le voit vraiment dans le pire la pire des situations, c'est-à-dire quand l'autorité ne sait pas quoi faire et fait n'importe quoi. Mais cette autorité en a. Comme je te dis, là on arrive au bout de la question du droit, c'est-à-dire est-ce qu'elle en a le droit ou pas. Elle se croit en état d'exception, elle essaie de survivre. La survie a entre guillemets tous les droits, si tu me permets cette
Ouais,
expression.
ouais, ouais.
Maintenant, le problème c'est qu'elle n'a pas la bonne stratégie de survie, c'est-à-dire elle va fortement appauvrir sa population sans régler ses problèmes.
Ouais.
Il serait beaucoup plus commode pour tout le monde qu'elle trouve, et c'est là où le néo-chartalisme intervient, qu'elle comprenne quel est son vrai problème et comment donc le résoudre, c'est-à-dire qu'en fait il est nécessaire d'avoir un déficit public et que quand on est souverain, qu'on a sa propre monnaie, le déficit public ne pose pas de problème de solvabilité pour l'État en sa propre devise.
Oui, parce que évidemment, si c'est sa banque centrale qui peut pallier quand ça marche pas, comme on le dit maintenant, on commence à comprendre ça. Beaucoup d'économistes commencent à le dire. Même Jacques Sapir commence à défendre un peu cette thèse-là.
Même Paul Krugman, de plus en plus comprend la chose.
Ouais, c'est fou parce que ils ont mis du temps à comprendre. C'est bizarre,
Bien, en fait,
hein?
non, non, c'est pas du tout bizarre. C'est comme dans
Alors.
les années 30, là aussi, c'est-à-dire,
Ouais.
on a essayé tous les recours, plus ou moins bidons, c'est-à-dire l'endettement, le surplus extérieur, etc., pour essayer de ne pas avoir de déficit public.
Ouais.
Mais comme tout cela ne sont que des palliatifs,
Ouais.
le déficit public finit par s'imposer. Tu regardes les États-Unis de 1920 à 1930, ils ont un surplus budgétaire. Ah, des gens responsables qui préparent bien l'avenir, toutes ces conneries.
Ouais.
Ensuite, tu remarques déjà dans la période, il y a une énorme spéculation. Il y a notamment les bulles sur les actions. On a beaucoup parlé de la bulle des actions en 1929 qui a explosé en 1929. Mm-hmm. Il y a aussi des bulles sur l'immobilier. Enfin, il y avait énormément d'endettement.
Mais comme aujourd'hui. Hein.
Oui, absolument. c'est ce que je dis, ça se répète.
Bien sûr.
Hein. Et quand ils ont été incapables d'à nouveau de continuer à s'endetter, quand ça s'est effondré, le déficit s'est imposé non pas de bon gré en se disant « Ah bah oui, c'est la solution », c'est imposé parce qu'ils n'avaient plus le choix.
Faut dire qu'à l'époque c'était plus difficile parce qu'il était ancré dans tous les esprits que c'était l'or qui était l'étalon. Et là c'est beaucoup plus dur parce que trouver de l'or c'est beaucoup plus difficile que de dire on va augmenter
absolument
un peu la monnaie.
Absolument, l'histoire bégayait.
Ouais.
L'histoire bégayait.
Oui, tout à fait. Donc ça c'est effectivement intéressant. Alors, donc là on a vu ces deux problèmes là. Alors, la question qui se pose maintenant. Alors, comme tu dis, là, les États essaient de s'en sortir et ils n'ont pas compris la nécessité du déficit public, etc. Alors, tout ceci se voit au sein du système monétaire tel qu'il existe.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que c'est un système monétaire où l'argent est émis de toute façon toujours sous forme de dette. Oui. Et remboursable ou pas remboursable. Alors évidemment, concernant le déficit public et concernant ce qu'on appelle la dette publique, finalement, c'est la monnaie. On est d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est assez récent.
C'est la devise.
C'est la devise. Et ça fait peu de temps qu'ils l'ont appelée dette, hein, parce qu'il y a encore 10 ans, jamais ils l'appelaient dette en Europe. Aux États-Unis, en Europe, non. En France, en tout cas, jamais. Ils ont commencé à appeler ça dette lors de la campagne de Nicolas
2003,
Sarkozy. Oui. À ce moment-là, pour justement essayer de récupérer le pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Reagan dans les années 80, où ça fait plus longtemps. D'ailleurs, on se remarque, oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir, par rapport à ce que tu viens de dire, aux États-Unis, on semble avoir très bien compris ce problème-là. Parce que
Alors, ils n'ont pas compris. En revanche, ce sont les plus pragmatiques. C'est-à-dire, ils ont fait trois fois rien de relance, mais trois fois rien d'austérité. Et du coup, c'est eux qui s'en sortent le mieux, c'est eux qui, à l'heure actuelle, ont le plus de croissance. Ils sont maintenant nettement au-dessus pour leur PIB, ils ont un PIB nettement supérieur à celui qu'il était en 2007.
Ouais.
Il y a, je crois, l'Allemagne, il y a encore quelques pays, très très peu, qui sont dans ce cas.
Ouais.
Alors que les autres ont été beaucoup plus orthodoxes et pour le coup stupides, comme toujours quand l'orthodoxie est un mythe.
Ouais.
Et ils ont fait l'austérité, on va réduire les déficits publics, on y va, et donc ils vont au suicide, comme des lemmings.
Voilà. Alors, mais à noter quand même qu'il y a quand même un danger, puisque dans les années 30, il y a eu ce problème, qu'il y a eu une remontée temporaire de l'économie en 33-34, et après ça a replongé. Donc il y a eu ce
Alors justement, mouvement. J'ai un graphique, j'ai une sous-partie sur les États-Unis dans le livre que je publierai bientôt,
ouais.
En septembre a priori, on verra.
Tu mets en relation avec 2008 ?
Justement, exactement de la même manière qu'on a fait un petit peu de relance, Sarkozy a fait un peu de relance, etc. Il y a eu un peu de relance avec Obama au début, etc. Ensuite, on revient à l'austérité parce qu'on croit que on s'est permis, mais vraiment de manière exceptionnelle, et c'est malsain, et il ne faudrait pas continuer, etc. De la même manière, on avait refait de l'austérité en 1937-38, et à ce moment-là, les États-Unis replongent en récession, alors que la production industrielle avait à nouveau dépassé son pic de 1929.
Ouais.
Elle replonge,
ouais.
Les prix se remettent à baisser, bref, retour à la dépression.
Ouais.
Puis, voyant la catastrophe, retour au déficit et à nouveau retour à la croissance,
ouais.
Retour les prix à nouveau.
Donc c'est une sinusoïde.
Non, c'est une sinusoïde ascendante.
Ascendante, oui, tout à fait. Ouais.
Et après, alors là, c'est triste à dire, mais on revient toujours.
C'est une exponentielle sinusoïdale. Avec des creux,
ça,
avec des creux,
voilà.
Des bosses.
Voilà. Bon, le réel imite assez mal la courbe mathématique, mais on va dire que c'est en gros la tendance.
Mmh.
Et là encore, retour du refoulé des choses les plus enfouies, les plus passées, les plus profondes. Qu'est-ce qui va finalement imposer pleinement et vraiment dans les esprits les déficits publics ?
Ouais.
C'est l'économie de guerre. On revient à la guerre.
Oui.
C'est-à-dire que là, enfin, même les libéraux les plus acharnés,
ouais.
Entre faire fonctionner avec de l'or coûte que coûte la monnaie, ouais. Et survivre, bon, il y a un moment où ils préfèrent quand même survivre.
Oui, d'accord. Oui, mais l'économie de guerre, ça veut dire que ce n'est pas une solution. Ça veut dire que là, il y a eu quand même, du coup, la compréhension qu'on pouvait mettre de la monnaie pour faire un peu n'importe quoi, dont notamment des armes pour reprendre le pouvoir. Donc c'est une refondation de l'État, tel que tu le disais, sur des bases coercitives.
Je te rappelle que juste avant la retombée en dépression de 37-38, on était déjà à une production supérieure à celle de 1929, c'est-à-dire sans économie de guerre, on était déjà capable de retrouver la voie de la croissance, etc. Donc c'est pas l'économie de guerre qui fait la croissance, c'est le déficit public. Si ça se fait via la guerre, c'est malheureux, mais au moins les gens, au lieu de mourir de faim, ils meurent sous les balles.
Ouais. Bon.
voilà. Mais ce n'est qu'une possibilité. Hein. Faut pas avoir une vision restrictive et croire que.
Alors, donc on a compris ton point de vue. Alors évidemment, moi j'ai envie de maintenant de laisser parler Gérard et puis je vais peut-être orienter un peu le. Évidemment, parce que dans ce que tu me dis, il y a quand même des trucs qui gênent. Parce que quand tu dis c'est déficit public, évidemment c'est l'émission de la monnaie. Bon, très bien, moi j'ai pas de problème avec l'émission de la monnaie. Mais évidemment, quand on dit que c'est l'émission de monnaie, soit par les banques, soit par l'État, et dans ton cas, tu dis il faut qu'il dise, bon, très bien. Mais le problème de ça, c'est que tout le monde n'est pas payé par l'État. Donc ça veut dire que ceux qui sont hors l'État et hors les banques, quand les deux émettent, mais quand c'est l'un ou l'autre, c'est pareil, ceux qui sont hors de ce système-là n'en bénéficient pas. Et on va favoriser des valeurs au détriment des autres. Donc là, Gérard, je pense que là, c'est ce point-là doit te poser problème, toi.
Bah oui, bien sûr. C'est un peu le raisonnement que j'ai dans le bouquin que j'ai écrit. C'est de dire, voilà, bon, on a un système qui est à l'évidence asymétrique, à la fois dans l'espace et dans le temps, pour les raisons que tu viens de décrire très bien. C'est-à-dire, quand on a, par définition, quand on a un centre émetteur de monnaie, la monnaie part du centre, donc elle va à la périphérie plus tard, plus loin, plus long, dans le temps et dans l'espace.
Et
donc,
de façon arbitraire, elle va payer les uns ou les autres, par exemple, sur une économie de guerre, ou par exemple, pour les logements,
évidemment.
Des trucs qui ne concernent pas forcément des hommes libres qui veulent faire autre chose.
Évidemment. Alors, la grande objection que j'entends quand je tiens ce raisonnement-là, c'est de me dire, c'est les gens me disent, bah oui, mais il faut quand même bien quelqu'un pour faire les routes. Par exemple, c'est toujours les routes qui ressortent. Bon, d'accord, mais alors s'il n'y a plus d'État pour distribuer la monnaie, comment on va faire les routes?
Les routes concernent pas tout le monde. Celui qui veut vivre sans route, comment il fait alors?
Et même, j'ai envie de dire, bon, encore.
On a l'impression dans ce raisonnement, je te coupe un peu, parce que j'ai des questions, c'est des questions auxquelles je veux te voir répondre aussi, c'est que dans le raisonnement que fait JB, il est très bien, il tient la route, etc., mais il est totalement, j'ai envie de dire, hors sol, c'est-à-dire que l'homme n'apparaît pas.
Exactement.
L'individu n'apparaît jamais, il n'est pas pris en compte, c'est-à-dire celui qui vit dans l'Arzac. C'est pas son problème.
Si, il est quand même pris en compte dans le sens où le point de vue de JB et de la moderne monnaie théorie, la MMT, résout le problème de la pauvreté, résout le problème de chômage, puisque en dernier ressort, l'État, quand vraiment ça va mal, il injecte de la monnaie dans le système.
Oui, mais en les faisant travailler pour des choses précises.
En les faisant travailler
pas pour ce qu'ils veulent faire eux.
Certes, oui, pas pour ce qu'ils veulent faire eux. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux qu'avant. Bon, d'accord. Au moins, ils crèvent pas de faim.
En quoi l'absence de liberté est mieux que l'absence de liberté?
C'est pour ça que j'en reviens au raisonnement que je soutiens dans mon bouquin, c'est dire que pourquoi est-ce qu'un État irait financer des routes ou même des TGV? De quel droit quelqu'un a le privilège de décider où va l'argent, qu'est-ce qu'on fait pour une société?
En tout cas, pas dans une proportion de 100%, c'est ça le problème aussi.
Évidemment. Donc voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de routes, est-ce qu'on a besoin de TGV, est-ce qu'on a besoin d'écoles, est-ce qu'on a besoin d'hôpitaux? Et ce qu'on constate dans la réalité, et c'est là où vraiment je m'insurge contre ce système complètement arbitraire, c'est que ça ne fonctionne pas d'une manière pragmatique. On voit bien que l'argent qui est injecté depuis 150 ans dans les écoles donne un système scolaire qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne mal.
Bien sûr,
on voit très bien que les quelques petites expériences d'écoles parallèles fonctionnent beaucoup mieux que le système de l'État. Bon, c'est clair, c'est évident, il suffit de regarder les résultats. Donc, on voit très bien que les routes, pour parler des routes, génèrent une obligation de se déplacer, une obligation d'avoir une voiture, une obligation de consommer de l'essence, du pétrole. Il y a bien longtemps que si l'État avait arrêté de nous obliger à construire des routes, on aurait des cabines de téléportation.
En tout cas, ils font tout pour pousser à acheter après la voiture et le pétrole qui va avec.
Bah évidemment, puisque c'est eux qui les vendent. Ça marche très bien, c'est un système super. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve face à un arbitraire, face à un groupe de gens à qui on a confié, un, la responsabilité de décider pour nous ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et deux, la responsabilité de nous obliger par la force à obéir à leur choix.
C'est les options, t'es obligé d'acheter l'option.
On est obligé d'acheter l'option, voilà, exactement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue fondamentalement pragmatique, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, et puis surtout, ça étouffe la créativité de la population, qui n'a aucun moyen d'exercer son vrai choix et sa vraie liberté. Et puis d'autre part, donc d'un point de vue pragmatique, ça ne marche pas, ça étouffe toute la création qui pourrait exister, Et d'un autre côté, d'un point de vue éthique, tout simplement, c'est complètement arbitraire. C'est contraire à la liberté, c'est contraire à l'égalité, c'est contraire à la fraternité. Donc, pour moi, les deux points de vue principaux, d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue philosophique ou éthique, ça ne fonctionne pas. Donc, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir.
D'accord, très bien. Alors, on arrive à la moitié de, ou la moitié, je ne sais pas encore, parce que c'est peut-être encore le tiers, parce qu'on aura peut-être encore beaucoup de choses à dire. On ne va pas se gêner, parce qu'on n'est pas limité en temps. C'est ça qui est bien, si on est libre. Mais on va quand même faire une petite pause, parce que l'auditeur est fatigué. Je sais que JB t'a bien écouté et que il a fait des grands bonds,
Oh,
parce
il a
qu'il a.
beaucoup levé le doigt.
Mais bien sûr, il a envie de répondre. Et ça le sera très difficile parce que je sais que tu as beaucoup d'arguments. Alors, mais évidemment, on va attaquer là-dessus parce que c'est le cœur. On va parler là-dessus. Et après, on finira cette émission. Enfin, on continuera l'émission. Je ne sais pas quand on la finira. On continuera l'émission pour aller vers les alternatives et penser la monnaie autrement. Mais on va attaquer bien sûr là-dessus et parce que j'y ai encore beaucoup de choses à dire et il faut en discuter. Et je sais qu'on ne tombera pas d'accord, mais on va pousser les arguments jusqu'à leur conclusion. Enfin, jusque là où on aura affirmé nos positions en tout cas. Et en attendant, et bien évidemment, on va faire une petite pause musicale. Et avec de la musique, devine comment elle est cette musique. Elle est
Forte.
non pas forte, douce, dou non plus. Elle est libre. Voilà, donc on se laisse une petite pause musicale, donc avec de la musique libre tout de suite. Et on se retrouve juste après. Donc ne quittez pas.
Y'all, you know you need me.
Et voilà, nous voilà de retour après cette petite pause musicale. Et ben on va donner bien sûr la parole à JB, à Jean-Baptiste, pour répondre à ce que nous a dit Gérard. Évidemment, c'est un problème si eh bien, cette monnaie qui est injectée, ce déficit public, bénéficie aux uns et pas aux autres. C'est-à-dire on fait travailler les uns sur des valeurs arbitraires, et puis alors les autres, celui qui est... C'est mon exemple typique, le mec qui est au Larzac, bah lui, tant pis pour lui, quoi. Il recevra la monnaie plus tard, si quelqu'un veut bien lui acheter son fromage de chèvre. Ouais. Alors évidemment, JB, tu as des réponses à ça, et tu as bien réfléchi à ce problème, puisque la liberté des hommes t'importe avant tout.
Énormément, et aussi, surtout la liberté concrète, c'est-à-dire que ça marche concrètement. Et là où il y a une énorme confusion chez Gérard, entre le déficit public, faire un déficit public, et comment on utilise ce déficit public, comme si le fait de faire un déficit public était forcément, par exemple, dans l'armée, tout à l'heure, j'avais dû préciser là-dessus. On peut, par exemple, utiliser un déficit public pour faire un revenu de base. C'est une possibilité. Ça peut dire que je suis pour ni que je suis contre. C'est une possibilité. Et ça a même déjà été fait par le passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives dans les années 70 au Canada, aux États-Unis notamment.
Qui perdurent au Canada.
Exact.
Encore aujourd'hui, ça
et même aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'aides sociales de diverses manières qu'on n'est pas loin d'avoir une sorte de revenu de base qui ne dit pas son nom via un système administratif extrêmement lourd.
Oui.
Donc, non seulement c'est possible, mais même on n'est pas loin déjà de le faire malgré tout.
Sauf qu'il est lourd.
Voilà, il est lourd, il est hypocrite, c'est-à-dire qu'il ne s'avoue pas, enfin, ça pose plein de problèmes, mais en gros, bref, on se comprend. Donc on peut très bien faire un déficit égalitaire. C'est, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une devise qu'elle correspond nécessairement à une sorte de pacte social unique possible. Non, au contraire. Pourquoi il y a plein de devises? Parce qu'il y a plein de sociétés. Pourquoi il y a plein de sociétés? Parce que justement les gens ne sont pas d'accord. Donc on peut faire un revenu de base. On peut faire aussi l'employeur en dernier ressort. On n'est pas obligé pour l'employeur en dernier ressort de faire nécessairement que des routes. On peut faire beaucoup de projets différents, on peut faire des projets sociaux, ça dépend, c'est encore une fois, c'est à la communauté de définir ces projets, c'est à la communauté de définir ce qu'elle veut ou pas, et si elle a trop peu confiance en elle-même et qu'elle préfère un revenu de base, elle peut encore définir qu'elle dépensera dans un revenu de base, ça pose pas de souci.
Oui, alors ce que tu dis est juste, alors mais en réalité, et là aussi, comme tu dis que tu es pragmatique, etc., on voit bien que c'est lié encore une fois au système démocratique, parce qu'en pratique, on voit bien qu'on peut pas le faire, c'est-à-dire que beaucoup de gens défendent cette idée que ce que tu appelles lourd aujourd'hui, c'est-à-dire toute la redistribution ou toute la distribution monétaire. Nous, de notre point de vue, ce sera peut-être plus une distribution monétaire qui existe avec les allocations familiales, les allocations pour les enfants, les trucs, etc. C'est conditionnel. Ça demande une grosse administration. D'ailleurs, on le voit récemment, ils veulent maintenant enlever les allocations familiales aux plus aisés, soi-disant, etc. Ce qui fait que, justement, on s'éloigne de plus en plus d'un revenu de base puisqu'ils rajoutent tout un tas de conditions qui rendent le truc opaque, difficile. Et en gros, celui qui se retrouve dans les aides sociales, finalement... n'a plus envie d'en sortir parce qu'il sait que s'il en sort, il va payer plein pot, il va travailler beaucoup plus pour gagner à peine plus, et au final, voilà, on est devant une complexité telle que ça laisse les gens dedans, ils n'ont pas envie d'en sortir, et même le système les empêche d'en sortir, ou voire les désincite à en sortir. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont dedans, et forcément ceux qui sont dehors, et entre les deux, moi, il y a ce que j'appelle moi, le grand fossé. Mais on voit que démocratiquement, on ne peut même pas en discuter. C'est-à-dire que le débat est bien, donc quand tu dis c'est à la communauté de le décider, mais en pratique, évidemment, si le système démocratique ne permet pas à l'expression de la communauté de se manifester, c'est en pratique pas faisable, pas jouable.
Alors ça, c'est dû au néolibéralisme qui a réappliqué cette aberration qui est le déficit zéro. On en avait triomphé durant les Trente Glorieuses, on avait une période extrêmement créative, où on avait beaucoup d'innovations technologiques, etc., mais on l'a oublié, les néolibéraux ont une phobie de l'État, ils ont une phobie justement de tout ce qui pourrait être communautaire, et notamment parmi leurs noms au début, parce qu'ils cherchaient un nouveau nom, il y avait les libéraux de gauche. Ça s'appelait libéralisme de gauche.
Ils existent toujours.
Et ils ont produit le néolibéralisme, ils ont évolué exactement comme le libéralisme classique, c'est-à-dire toujours moins d'État, et comme c'est toujours moins d'État, c'est toujours moins de dépenses publiques. Et en particulier le déficit public, parce que ça fait peur, c'est vraiment la communauté qui se paie elle-même. Et là, il y a un point très 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 important à comprendre, c'est qu'il est impératif de conjuguer, si on veut, le revenu de base avec un déficit public. Si on veut faire un revenu de base, ou même sans revenu de base, qu'importe, et un déficit zéro, de toute façon, on se mettra à saigner à blanc l'économie de toutes ces devises, et ça ne pourra pas fonctionner, et ça, simplement le revenu de base fera qu'on ira un peu plus tous en même temps, c'est-à-dire au lieu d'avoir d'abord des personnes au chômage sans le moindre revenu, d'autres qui gagnent plus, on taxera celles qui gagnent plus et on égalisera comme ça. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire il y a encore un peu de sens communautaire. Malheureusement, on sait pas gérer la devise de la communauté. Du coup, eh bien, on avance comme ça. Les États-Unis sont plus à faire certains qui gagnent et d'autres non, mais ils ont moins le sens communautaire. Mais en gros, tout ça, de toute façon, va dans l'absurdité parce que à la base, il y a un mythe qui est absurde et il y a des prix Nobel qui le disent, bref.
D'accord, mais je pense que j'irai pas tout à fait contre ce que tu viens de dire, étant donné que là tu as
Pas
éclairci
du tout.
ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses,
Ben
Gérard?
non, mais le gros apport de la pensée de JB et de la théorie moderne et du néo-chartalisme, c'est justement ça. Je dirais, de dédiaboliser le déficit public. Il faudrait même trouver un autre nom, parce qu'il faudrait dire c'est la part de monnaie qui est distribuée dans la société par l'État. C'est ça le déficit public. Donc il est forcément indispensable.
On en revient à cette distinction qu'on faisait au début aussi peut-être entre la monnaie euro centrale, qui elle effectivement est la monnaie publique véritable, entre guillemets, c'est-à-dire les vraies pièces et billets qu'on peut obtenir, théoriquement c'est ça, c'est vraiment la monnaie centrale, et la monnaie émise par les banques privées qui presque, moi j'ai presque envie de dire, devrait porter un autre nom, quand bien même elle serait convertible en euros, elle devrait s'appeler
Crédit.
crédit et non pas euro, parce qu'il y a une confusion sur la marque, alors qu'en fait ça signifie pas la même chose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
On
Bon,
est.
il y a aussi le fait que, en zone euro, les États aient abandonné, justement, ce dont parle JB, aient abandonné la possibilité de financer eux-mêmes leur déficit public par de la création monétaire. Donc évidemment, ça oblige tous les États de la zone euro à aller emprunter sur les marchés financiers leur propre monnaie, c'est-à-dire leur propre outil d'échange quotidien, et de payer un loyer dessus. Donc forcément que ça ne peut pas tenir debout, forcément que le déficit public il a tendance il gonfle en permanence, la dette augmente en permanence et on se retrouve face au mur comme les événements de Chypre viennent de nous prouver.
Oui, mais j'ai envie de dire, ça ne tient pas debout à terme, c'est-à-dire pendant une période, ça tient debout, le temps que ça se raréfie de plus en plus, mais il arrive un moment où on est devant le mur, c'est-à-dire qu'il y a l'illusion. Le problème, c'est que, évidemment, si on refait la même erreur, c'est-à-dire pendant. Tu te parlais de 30 glorieuses, mais c'est après une guerre, c'est-à-dire si on refait une guerre et qu'on refait la même mécanique, pendant 30 ans, on va avoir l'illusion que ça remarche, jusqu'au
Bon,
jour où on
attends,
va
faut.
retomber dans
Après
le.
14-18, c'était quand même une grosse guerre,
Ouais.
14-18. Eh bien, on a eu les années folles, qui
Ouais.
étaient beaucoup moins florissantes que les 30 glorieuses et qui en plus étaient plus brèves.
Ouais, mais est-ce qu'ils ont fait la même démarche de créer de la monnaie?
Eh bien non,
Et
justement, parce
voilà.
qu'ils ne comprenaient
Mais
pas.
donc voilà, c'est bien.
On a oublié, mais
ben, c'est pas faux, donc c'est pas
John
faux.
Merkens était
Voilà.
un chartaliste.
Oui.
Ouais, bien
Et
sûr. Ou le
et
chartalisme était un keynésianisme. On peut dire ça aussi comme
non, non,
ça.
non, non. D'abord, Knapp crée le chartalisme en 1905. Ensuite, Keynes l'apprend et y adhère formellement, en tout cas en 1930. Avant, il était déjà très, très intéressé. Et c'est qu'ensuite que le keynésianisme apparaît, surtout avec la fameuse théorie générale de l'intérêt de la monnaie, de l'emploi et de la monnaie. Bref, la théorie générale, on l'abrège comme ça, en 1936. Donc c'est d'abord, il y a le chartalisme, et le chartalisme a permis le keynésianisme.
D'accord. Mais alors, mais quand tu dis faux, non, la possibilité de refaire un cycle, elle existe. Si, là, d'ailleurs, on vit des périodes, on voit bien, de tensions, de guerres internationales. On ne va pas les citer parce qu'il y en a plein, et des révolutions, etc. Et avec possiblement derrière un redémarrage à base de ben, super, allons-y, et de nouveau après les problèmes, parce qu'ils ne sont pas finis. Mais recréons en quelque sorte les conditions pour créer des biens et des valeurs diverses et variées. D'ailleurs, créons la monnaie, comme tu le dis, par déficit et en la répartition de façon la plus large possible, si on peut le faire. Et jusqu'au jour où la dette reprend. Petit à petit, hein, parce que c'est ça qui se passe, petit à petit les banquiers se disent, mais attendez, il faut emprunter la monnaie, etc. Et ça recrée un système de rétention de la monnaie et de nouveau une crise qui aura lieu dans 40 ans ou dans 50 ans. C'est ça que je dis.
Moi, je propose. Moi,
C'est-à-dire qu'on risque se retrouver à refaire les mêmes raisonnements que dans les années 30, à refaire derrière un nouvel embol, on va dire, vous voyez, ça marche bien, jusqu'au jour où les gens ont oublié ça, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les gens meurent, bien sûr. Et ceux qui ont compris le truc, ben, ils sont plus là. Keynes, il est mort, tu comprends? Donc il avait bien compris, mais si derrière, évidemment, ça n'a pas été transmis suffisamment, etc. Donc les gens sont remplacés par des jeunes qui, eux, ben, réfléchissent en fonction de leur intérêt et vont remettre en question ce qui a été fait parce qu'ils ont un esprit neuf, etc. Et retomber dans les mêmes erreurs. Parce
Bien
que
sûr.
c'est bien le problème. Est-ce qu'on ne peut pas briser ce cycle qui, de génération en génération, se perpétue?
Non, on peut pas parce que le cycle, il est brisé automatiquement par le monopole de la force. On ne peut rien faire contre le monopole de la puissance de l'État. C'est ça. Bon, je vois JB qui lève les yeux au ciel, mais pourtant, c'est la pensée que défend JB, c'est-à-dire le néo-chartalisme, qui nous a démontré qu'une zone monétaire était quasi obligatoirement liée au pouvoir d'un État. C'est-à-dire au pouvoir d'un État qui contrôle une zone géographique bien précise et qui impose une monnaie précise dans cette zone-là, de force. Par l'impôt. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission. Donc obligatoirement, on se retrouve dans un mur si, dans un système comme l'euro, on a d'une part des pays qui ont perdu leur souveraineté monétaire et qui donc sont obligés d'aller emprunter leur propre monnaie à un centre d'émission supérieur, mais qu'en même temps, il n'y a pas un État qui englobe la zone monétaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique fiscale au niveau européen. Il n'y a pas de politique militaire au niveau européen, il n'y a pas de domination d'un État européen. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher que s'il y a une domination d'un État au-dessus qui impose une monnaie globale dans sa zone précise. Or là, la seule manière de sortir de cette impasse, ça serait soit de redonner la souveraineté monétaire aux États et donc de casser la zone euro, soit de remonter au niveau fédéral et de donner le pouvoir militaire et le pouvoir d'imposition au niveau fédéral européen. Et là, on aurait une zone européenne avec un euro soumis, qui soumettrait obligatoirement les gens à un impôt collectif sur l'ensemble des 330 millions de citoyens.
Il y a évidemment une troisième option, évidemment.
Oui, si on ne sort pas du paradigme où on est, voilà les deux seules solutions. Ouais. Et c'est ce que nous apporte le néo-chartalisme. C'est ce que nous dit le néo-chartalisme.
On ne sort pas de la force et de la coercition.
J'ai lu le très bel article que JB lui-même m'a prêté, de Charles Goodhart, qui fait exactement cette analyse-là.
Et alors, dit quoi ? C'est souhaitable alors ? C'est ça la conclusion ?
Non. En économie, on n'analyse pas. On ne prend pas position. On analyse, c'est tout. Et donc, on dit, les néo-chartalistes disent, voilà, d'un côté, on nous fait croire que la monnaie, elle se crée par une espèce de consensus entre les populations pour remplacer le troc. Ça, c'est une légende. Et d'un autre côté, ouais, on peut dire, c'est l'État qui crée la monnaie et qui l'impose dans sa zone géographique.
Mais dans cette analyse que tu nous donnes.
Et ça, c'est ce que nous prouve le néo-chartalisme de JB.
Oui, mais dans cette analyse que tu nous donnes, ça veut dire qu'il n'y a pas la sortie de ni absence d'État, ni État. Ça veut dire qu'il n'y a pas, la troisième voie, c'est-à-dire la possibilité de sortir du paradigme pour aller vers un autre horizon.
La sortie du paradigme, elle n'est possible que si on prend conscience de la coercition qui s'exerce pour imposer une monnaie globale, et que, comme c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, on crée des monnaies locales, des monnaies alternatives, des monnaies cryptées, comme OpenBSC, comme Bitcoin,
on va
etc.
Et que
là, le citoyen, au niveau le plus petit de l'exercice de la démocratie, reprend sa liberté.
Et a le choix, donc, du coup.
Et a le choix, à condition que l'État qui est au-dessus ne vienne pas lui donner des coups de matraque sur la tête dès qu'il en parle.
D'accord, mais tu es en train de dire, et ça c'est intéressant parce qu'on va conclure là-dessus avec JB qui va te répondre, tu es en train de dire que pour sortir du paradigme, donc, si je te résume, et je suis d'accord avec toi, il y a d'abord, un, la nécessaire prise de conscience du mécanisme.
On ne peut pas en faire l'économie.
Voilà, prise de conscience du mécanisme, mais ça ne suffit pas, parce que si on ne fait que prendre une conscience du mécanisme, on ne fait que, finalement, commenter les choses et ne pas être acteur.
Il y a peut-être un moment, il va falloir aller se battre contre des policiers surarmés qui
vont trop loin. Va pas trop loin. Déjà, prise de conscience, c'est une chose. Après, mais le problème, si on ne fait que prendre conscience et qu'on se dit ça ne va pas, il faut lutter contre, ça apporte pas une solution. Je lutte contre, j'apporte rien de neuf. Mais par contre, on peut prendre conscience et après, avec une réflexion approfondie, trouver une voie qui permet d'aller ni contre ni pour, mais de prendre une troisième voie.
Je crois que c'est ce qui est en train de se faire sous nos yeux. Je crois que la prise de conscience, elle a lieu et les alternatives sont en train de se mettre en place.
Oui, mais on voit que la prise de conscience ne suffit pas. Hein. Il faut aussi
les alternatives sont en train de se mettre en
place. Puisque si on regarde la gauche, par exemple, depuis longtemps en France, ou les zones politiques, c'est contre. Voilà, c'est contre. Il y a le capitalisme et puis il faut être contre. Voilà, le truc, c'est que faut être.
Bien sûr.
Ça ne permet pas de sortir.
Mère Teresa disait si vous m'invitez pour une manifestation contre la guerre, je ne viendrai pas. Si vous m'invitez à une manifestation pour la paix, je viendrai. Oui. Donc il faut être pour quelque chose, bien entendu.
Pour autre chose. Alors donc voilà. Alors JB, est-ce que tu en penses ? Tu es d'accord, pas d'accord ? Comment tu vois les choses ?
Tous les deux, ça fait beaucoup de choses à répondre. Alors d'abord, comme le disait Knapp, le vrai théoricien ne connaît pas d'exception. Et le chartalisme, le néo-chartalisme en particulier, est parfaitement capable de penser une monnaie sans état. En revanche, ce qu'il explique, c'est que ce sera une monnaie particulièrement peu efficiente, qui sera à peine émergée du troc. On a déjà connu ça, des monnaies à souveraineté faible ou sans souveraineté. Notamment, on n'est pas obligé d'avoir un cycle Bref, Stéphane, voilà, j'ai retrouvé ton prénom.
Oui.
Monsieur Stéphane.
Monsieur Stéphane.
Oui.
Maître Stéphane.
On a connu la chute de l'Empire romain, on avait une monnaie qui fonctionnait très bien. Pendant de nombreux siècles, il n'y a pas eu vraiment de monnaie parce qu'aucune souveraineté n'émergeait. Et donc, en fait, il y avait plein de monnaies courantes qui étaient dans la poche de chacun, etc. Chacun devait le faire son bordel, le calcul bordélique, c'est-à-dire essayer de calculer les taux de change, savoir avec qui c'est accepté ou pas, machin, etc. C'était n'importe quoi, ça ne s'adaptait pas du tout à la monnaie, à la croissance de l'économie, etc. Du coup, l'économie en pâtissait. On peut très bien avoir une communauté faible. C'est-à-dire, on ne croit pas vraiment en la communauté, on se met d'accord pour ne pas se mettre d'accord, on se met d'accord pour être en désaccord, et on dit on fait rien en commun, on fait trop faux, enfin, etc. En supposant que les autres, entre guillemets, se bouffent entre eux et nous laissent tranquilles, et que la situation perdure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité qui s'impose à nous, de l'extérieur, eh bien, on va se retrouver du coup avec, donc effectivement, on n'aura pas de valeur imposée par d'autres, mais on va se retrouver avec nos petits bras, et on va se retrouver en fait à faire ce qu'on peut, et les situations de non-droit existent déjà. Il y a déjà des zones où l'État s'est retiré, c'est pas forcément que ça y va mieux, loin s'en faut, tu as des zones sous la coupe de caïds, de mafias, etc. Quand tu regardais ce qui se passait du temps de la chute de l'Empire romain, ça n'allait pas nécessairement mieux parce qu'il n'y avait pas l'Empire romain. Bref, on pourrait multiplier. Mais là, je mélange parce que le néo-chartanisme ne s'intéresse pas à ça. En fait, moi, je suis très porté sur ces questions par rapport aux néo-chartistes. La plupart des néo-chartistes ne s'intéressent même pas à ce type de questions. Ils veulent juste que l'État arrête de leur dire la connerie qu'il faudrait réduire l'austérité et de massacrer son secteur privé. C'est très pragmatiquement ce à quoi ils s'intéressent, c'est tout. Donc moi, je pense que de toute façon, dès qu'une communauté se forme et vraiment, c'est-à-dire qu'elle dit nous existons positivement, nous voulons nous faire des choses ensemble, eh bien dès qu'elle le dit, elle s'en donne les moyens. Et de fait, elle se crée cette devise circule en son sein, elle se crée des impôts pour réguler la quantité de cette devise présente, éventuellement avec un déficit si cette économie est en croissance et qu'elle veut accommoder cette croissance, mais de toute façon ça se fait. Et dire qu'on ne va pas s'imposer de valeurs, etc., c'est dire en fait on va à une communauté sans communauté. Et bon, bah, c'est mignon, mais c'est très utopique. Les libéraux ont essayé sans piternellement de s'approcher de cet idéal. À chaque fois, ils cadenassent toujours plus l'État, à chaque fois, c'est encore plus le bazar. Les rivaux qui surnagent sont beaucoup plus détestables. Même Milton Friedman disait, je le mets en annexe du bouquin, de mon bouquin, en 1948, que l'une des raisons pour lesquelles il défendait le déficit public à l'époque, c'était que quand la situation économique est trop déprimée parce que l'État n'accommode pas assez la croissance de son économie privée, eh bien du coup il se met à défendre les gros parce qu'il dit il faut au moins que les gros tiennent. Donc on va se défendre les grosses banques, on va défendre les grosses entreprises, on va dire voilà, on veut faire que du crédit parce qu'attention c'est mal de recevoir un déficit public alors que ce soit un revenu de base ou un salaire de l'employeur de dernier ressort, qu'importe. Eh bien, on veut que ce soit à crédit, on veut que ce soit une dette, que ce soit remboursé, etc. Mais du coup, les banques, elles deviennent essentielles dans le paradigme qu'on met en place. Et on se retrouve avec le libéralisme de gauche, qui est depuis simplement nommé néolibéralisme, voire simplement libéralisme, qui nous met à nouveau dans le même bordel. C'est vrai pour Friedman en particulier, c'est vrai pour tout mouvement. À chaque fois, ils nous mettent dans le même bordel, c'est-à-dire ils nous laissent avec un État totalement impuissant, une communauté totalement impuissante, face à des éléments cyniques, qui profitent, qui se mettent en bonne position et qui eux sont là simplement, ils n'ont pas du tout de sens communautaire, ils sont là pour leurs intérêts à eux.
D'accord.
Attends, moi je voudrais répondre là-dessus. D'abord sur la dernière phrase, évidemment, les intérêts dont tu parles, les intérêts qui se mettent en place pour défendre leurs intérêts à eux, ne pourraient pas se mettre en place et défendre leurs intérêts à eux s'ils ne pouvaient pas profiter de la force de l'État. Et surtout, deuxièmement, je voudrais donner plus d'informations sur la légende du troc et l'émergence d'une monnaie qui n'est jamais efficiente dans une communauté. Effectivement, c'est vrai. Dans une communauté libre, c'est-à-dire en l'absence d'un État coercitif au sommet de la pyramide, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. C'est ce que nous disent les dernières recherches de David Graeber, que tu connais certainement, et de Michael Hudson, que tu connais très certainement aussi, qui nous disent, bon, le fait que... On dit tout le temps que la monnaie s'est créée parce que c'est compliqué de troquer. Bon, c'est une légende. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça fait 200 ans que les anthropologues essayent de trouver des tribus où ça s'est passé comme ça. Il n'y en a pas. Bon. Donc, comment ça s'est passé réellement? Y a des bouquins de 500 pages qui nous l'expliquent et qui nous disent que jusqu'à moins 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis moins 5000 à moins 700, il y avait des systèmes extrêmement complexes en l'absence de toute monnaie physique, en l'absence de toute monnaie coercitive imposée par un État. Il y avait des systèmes très complexes de crédit mutuel, de dette mutuelle. On pouvait aller vendre du grain en Chine et avec un système de confiance mutuelle, on pouvait aller payer sur place là-bas, ramener des soieries, etc. Et ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnait en tout cas d'une certaine façon. Bon. Deuxièmement, le fait que, et les recherches là qu'on vient d'avoir depuis quelques années, nous disent que, bizarrement, les monnaies dures, les monnaies physiques, c'est important, se sont créées simultanément en moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, à la fois dans les empires chinois, dans les empires indiens et dans l'empire romain autour du bassin méditerranéen. Il faut lire David Graeber, c'est un élément essentiel de la culture de la moderne monnaie théorie et du néo-chartalisme. Et donc on s'aperçoit que tant qu'un État qui domine, qui contrôle et qui annexe les pays et les populations autour de lui ne pensent pas à créer une monnaie pour créer un impôt, pour asservir les populations dont il a besoin de profiter pour s'agrandir et prospérer. Tant qu'un État n'existe pas, il n'y a pas de monnaie. Il y a juste des systèmes de crédit mutuel qui fonctionnent d'une manière tout à fait libre et tout à fait réciproque avec des systèmes de confiance réciproque. Et quand les États arrivent et quand les empires se créent en moins 700, là on a aussitôt des monnaies qui se créent.
Les systèmes de crédit sont des pyramides qui s'effondrent régulièrement. Par exemple, le code d'Hammurabi avait dû créer ainsi régulièrement. On efface toutes les dettes parce que justement
bien
le
entendu.
Crédit ne fonctionne pas. La
confiance oui, bien
à
ses
limites. Et aujourd'hui, à nouveau, on a essayé de faire le tout à crédit. Et à nouveau, les pyramides de crédit s'effondrent.
Bien entendu, tout à fait.
La devise vaut plus.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il est très important de penser à l'égalité, à la liberté des citoyens et à la fraternité qui s'exerce entre tout le monde en créant des systèmes qui protègent les débiteurs et non pas qui protègent les créditeurs comme on le fait actuellement. Donc un système de crédit mutuelle peut très bien fonctionner. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent la plupart des monnaies locales, des monnaies complémentaires et des systèmes d'échange locaux.
Très bien. Alors, il faut nous garder un peu de temps, évidemment, pour la dernière partie de l'émission. Alors avant, évidemment, je suis obligé de donner le point de vue de la théorie relative de la monnaie par rapport à tout ce que vous avez dit. Juste quand même pour rappeler. Alors, bon, déjà, quand on dit, tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, on a déjà connu ça, bon, évidemment, mais on n'a jamais connu le réseau Internet. C'est-à-dire que par exemple, on voit encore aujourd'hui sur le réseau, d'ailleurs on a vu un petit texte amusant d'un polytechnicien qui dans les années 90 dit Internet ne pourra pas fonctionner parce que c'est pas sécurisé, etc. etc.
C'est les mêmes que ceux qui disaient qu'on étoufferait dans les trains au-dessus de 60 à l'heure.
Alors, évidemment, c'est le problème, c'est quand on est devant quelque chose de nouveau, on ne peut pas dire... De toute façon, le problème, c'est qu'on a déjà connu ça, c'est ça ne donne pas la solution de ce qui... pas connu justement, hein, voilà, c'est le problème aussi des logiciels libres qui sont très difficilement compréhensibles par ceux qui ont été nourris des logiciels privateurs pendant trop longtemps et qui comprennent pas ce que signifie les libertés logicielles. Donc déjà quand on est sur quelque chose de nouveau, on peut plus dire on a connu ça, etc. C'est un monde vraiment nouveau, il faut réfléchir autrement. Bon, déjà c'est un premier point. Alors après JB, tu dis évidemment on peut être d'accord ou ne pas d'accord, pas être d'accord justement, mais ça c'est le principe même de la relativité. On peut effectivement être d'accord pour ne pas être d'accord. Et c'est même le principe même de la théorie relative de la monnaie, c'est-à-dire qu'on n'est fondamentalement pas d'accord sur ce qui est valeur ou pas. C'est exactement comme en physique, évidemment, quand on regarde le principe de relativité galiléen ou le principe de relativité générale. Les observateurs ne sont pas d'accord sur la façon de mesurer les vitesses. Si on est dans le train ou pas dans le train, on ne va pas mesurer la même vitesse pour le train. Si on est en relativité générale, on voit bien qu'il y a par contre un objet physique qui a une vitesse non dépendante de l'observateur et un seul objet physique, et c'est une non-matière. C'est la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière. La lumière a une masse zéro. C'est très compréhensible, il faut bien comprendre ça. Et quand tu dis qu'une communauté libre, c'est qu'il n'y a pas de monnaie, c'est en fait qu'il y a une monnaie zéro. Or, la relativité définit justement une monnaie relativiste qui est une monnaie zéro. Pourquoi ? Elle est gagée sur aucune autre valeur que l'observateur lui-même. C'est-à-dire quoi ? Les hommes qui se remplacent de génération en génération. Donc ça, c'est important à comprendre. Le zéro, il faut bien comprendre quelque chose. Le zéro dans les nombres, d'abord, ça a été une révolution conceptuelle pour inventer le zéro. Une révolution conceptuelle pour comprendre la nature de la vitesse de la lumière, pourquoi elle n'était pas dépendante des observateurs, c'était très dur. Pour les Newtoniens, ils ne comprenaient pas ça. Ils ont dû inventer l'éther, etc. C'est très compliqué. Le zéro, c'est pareil pour les nombres. Le zéro, il faut bien comprendre, c'est l'absence de nombre. Pourtant, c'est un nombre. Donc le zéro est un nombre qui n'est pas un nombre. Là, une monnaie relativiste est une monnaie qui est une monnaie sans être une monnaie au sens où elle n'est pas gagée sur un bien, ni un bien matériel, ni un bien non matériel. Elle est basée sur quoi? Sur la durée de vie des hommes. Les hommes se naissent et remplacent au bout de 80 ans, donc ça détermine ça, grâce à un petit calcul, donc je passe les modalités ici, le taux de croissance de la masse monétaire dans le temps, pour que les hommes naissant de 80 ans en 80 ans reçoivent la même part relative de monnaie qui est gagée sur quoi? Sur elle-même. Tout comme le zéro n'est gagé que sur lui-même, en fait. Il n'est pas gagé par rapport aux autres noms. Voilà, donc juste pour dire ça par rapport à la monnaie relativiste, qui est en fait une non-monnaie, mais qui est une monnaie. Hein. Voilà, c'est comme le zéro est un non-nombre, c'est une absence de nombre qui est bien un nombre. Et ça a été dur à comprendre dans le temps, il faut essayer de se penser là-dessus. Voilà, donc théorie relative de la monnaie, où on définit comment une monnaie peut se déployer sous la forme, par exemple, du projet OpenUDC, où déjà, donc, il y a une communauté basée sur une toile de confiance qui est en train de se déployer avec déjà un certain nombre de membres qui ont rejoint et qui rejoignent de plus en plus cette première base de monnaie. Alors, et on arrive justement de façon plus générale, parce qu'on ne va pas parler que de cette monnaie relativiste en particulier, puisque quand on est relativiste, on comprend qu'il puisse y avoir plein d'autres effectivement possibilités de comprendre la monnaie, même si on pense de point de vue relativiste que le zéro c'est mieux. C'est-à-dire, ben, au zéro, on est au centre, évidemment. Mais il faut regarder tous les autres nombres, bien sûr. Donc, c'est de comprendre aujourd'hui l'émergence des monnaies de type, alors évidemment, Bitcoin. Alors évidemment, c'est la star aujourd'hui, parce que c'est celle qui s'est déployée la première. Maintenant, qui commence à être acceptée par Mega. Mega, tu sais, la suite de Mega Upload, où maintenant ils acceptent les Bitcoins. Il y a plein d'autres services qui les acceptent aussi, et notamment aussi Ripple, qui est... Alors Ripple, c'est un système aussi de crédit mutuel. Alors là, carrément, c'est qu'on déploie le système de réserve fractionnaire jusqu'au niveau de l'individu. Et ça peut aussi être gagé. Alors évidemment, et là, il distingue bien justement la monnaie de base, qui peut être le dollar, l'euro ou n'importe quoi, ou le Bitcoin. Et sur cette base, il y a l'émission d'un crédit supplémentaire. Alors, JB, est-ce que tu connais ces différentes monnaies qui émergent et qu'est-ce que tu en penses? Déjà, le design est bien différent de la monnaie telle qu'on la connaît.
Oui, donc oui, j'ai vu pas mal de monnaies complémentaires, et j'ai un petit chapitre dessus dans le livre. Alors à la fois c'est très intéressant, c'est ce sont des laboratoires d'expérimentation, etc. Chacun essaie de recréer quelque chose d'une communauté, chacun à sa manière, de voir qui y participe, qui n'y participe pas, etc., de tenter quelque chose. Et après, donc, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se retrouvent du coup avec les mêmes questionnements que les questionnements qu'on a eu pour savoir comment gérer la monnaie de l'afro-état, etc. Par exemple, les bitcoins, on s'est rendu compte que un des gros problèmes, c'est qu'ils ne s'adaptent pas du tout, en termes d'émissions, ça ne s'adapte vraiment pas du tout à l'évolution de l'économie. Donc c'est une sorte de nouvel étalon-or, et pire, puisque y a un nombre absolument fixe, donc ils vont se retrouver avec des phénomènes de déflation, etc. Ils ont tout un questionnement qu'on a déjà traité et qu'ils redécouvriront. Après, donc il y a la TRM qui elle s'adapte au nombre de personnes en présence et à la durée de vie, si j'ai bien compris, mais qui ne s'adapte
pas au temps.
Voilà, mais qui ne s'adapte pas au niveau de production de richesse.
Donc il y aura aussi. Parce qu'elle définit la richesse comme étant justement non valorisable de façon générale, c'est-à-dire que seuls les individus sont jugés.
Voilà, donc elle tient pas du tout compte du niveau des prix auquel est parvenue la communauté. Il y aura aussi des questions de ce point de vue-là. Et donc je pense que les siècles d'expérience accumulées à travers les expériences des États, des communautés déjà existantes, je pense que ces mini-monnaies-là, à mesure qu'elles s'essaient, qu'elles s'éprouvent au contact du réel, se refont le cheminement, chacune par leur bout, etc. Et donc c'est intéressant, c'est touchant même. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un profond dépit, ça m'inspire.
Tu sais qu'en 2093, cette émission sera écoutée. Ouais. Tu le sais, ça.
Oui. Et je l'assume.
Oui, il faut. Tu sais que les gens des années 30 devaient assumer qu'on les écoute aujourd'hui, et on les écoute parfois avec attention, et parfois avec une petite pointe de recul historique.
Voilà. Et notamment, ils vont se poser aussi leur question de... à mon avis, ils vont, par exemple, ne serait-ce que lorsqu'ils ont à défendre la communauté, s'ils y tiennent vraiment, ils vont se retrouver avec des logiques guerrières, etc. Ils vont découvrir que l'affreux méchant état n'était pas affreux méchant parce que ce serait dans sa nature, mais parce que le monde n'est pas si propre que ça et qu'il faut se défendre. Bref, à mon avis, en fait, ils vont redécouvrir tout ce qu'on a déjà découvert petit à petit. Donc, j'ai confiance dans l'évolution de la chose. Et puis, ils redécouvriront aussi le néo-chartalisme, pardon, de la même manière que là, on est en train de le redécouvrir. Et ils évolueront vers ça, je suis convaincu.
Alors, ceci dit, quand tu défends l'idée d'un revenu de base associé au néo-chartalisme, on est très proche de la théorie relative de la monnaie, à part le fait que dans la théorie relative de la monnaie, on décide que le taux ne doit pas suivre quelques variations des prix que ce soit, puisqu'il n'y a pas de variation des prix de quoi que ce soit, puisqu'on n'est pas en mesure de dire qu'il y a là de la valeur ou pas, puisqu'on bafouerait les libertés d'un individu qui ne serait pas d'accord. Gérard, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces monnaies alternatives?
Mais comme je suis tout à fait d'accord avec JB, c'est vraiment, ce sont des laboratoires très intéressants, je trouve, et qui, évidemment, comme il vient de le dire très bien, sont destinés à redécouvrir un peu tout ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire. Mais je pense que c'est pas là que ça se passe. C'est pas au niveau de la redécouverte d'une monnaie ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre d'échanger. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement l'émergence de la liberté de la personne et de la conscience pour chaque individu et chaque citoyen. Mais j'ai même pas envie de dire chaque citoyen, j'ai envie de dire chaque être humain. C'est l'émergence de la conscience qu'il peut être lui-même maître de son libre arbitre, qu'il peut être lui-même, au niveau de l'individu, maître de ses décisions. Évidemment, dans la mesure où sa liberté n'empiète pas sur l'égalité qu'il reconnaît lui aussi dans les règles communes aux gens qui l'entourent. Et donc je pense que c'est ça qui est en train d'émerger. Je pense que l'évolution générale qu'on peut constater avec la perspective des siècles, c'est que voilà, on a libéré les esclaves, on a libéré les enfants du travail, on a libéré les femmes de l'obligation d'être à la cuisine ou d'élever leurs enfants. Donc je crois qu'il y a une libération tout à fait, il y a une grosse tendance lourde de libération qui est en
Progressive,
train,
elle est
très progressive, à très
progressive.
très long terme, hein, des changements de l'ordre de l'abolition de l'esclavage, ça prend au minimum 150 ans.
On n'a pas sorti
Donc,
encore, hein.
il y en a encore un peu, effectivement, par-ci, à certains endroits. Et donc, je pense que quelque chose comme la prise de conscience que l'individu peut être libre et exercer ses propres choix va de pair avec la découverte que la monnaie peut aussi fonctionner d'une manière libre et équitable. Et donc, je pense que voilà, on est peut-être au tout début d'un premier balbutiement de prise de conscience de ces phénomènes. Et que je pense que dans 150 ans, quand les gens nous écouteront, ils s'estimeront certainement beaucoup plus libres individuellement que maintenant.
Alors là, on peut rejoindre quand même
Individuellement et collectivement, puisque bon, quand on est libre, on a d'autant plus envie de s'associer pour faire des projets communs dans un système équivalent, asymétrique et volontaire.
Bien sûr, alors il reste le problème, bien sûr, quand tu dis l'individu libre, etc., c'est toujours pareil, c'est la problématique de la définition de la liberté. Mais maintenant, si on la définit comme non-nuisance, on comprend qu'elle n'est pas totale. C'est-à-dire que si on veut que les autres aussi soient libres, ça peut pas être la liberté d'un individu, ne peut pas aller contre la liberté des autres.
Bien
Donc c'est
sûr,
là
bien
que.
sûr. Liberté ne veut pas dire absence de règles. Pas
Voilà.
du tout.
Ouais, encore faut-il que ce soit les bonnes règles, entre guillemets. C'est-à-dire.
Liberté.
Donc là, il y a une
Ah
évolution des règles, on est d'accord.
ben non,
C'est-à-dire
mais
que là.
les règles, c'est pareil. C'est des choses qui sont symétriques, qui se définissent par un accord.
Donc est-ce qu'on est d'accord que là, qu'un code, finalement, monétaire, constitue un ensemble de règles, et que ces règles ben, définissent un certain type de liberté, et que ce n'est pas forcément. Les libertés que les hommes veulent exercer à un moment donné de l'histoire, à un moment donné, c'est plus ça, et ça devient
Bien
autre chose,
sûr, bien
et que
sûr.
là, il faut modifier ces règles, en
Bien
fait.
sûr, c'est une règle du jeu, tout simplement. Et bon, après, si on met des règles du jeu comme au Monopoly, où il n'y a qu'un gagnant et où tout le monde est ruiné autour, à la fin du jeu, il y a un gagnant et tout le monde est ruiné autour. Si on met des règles du jeu différentes, où personne n'est ruiné et où le système peut perdurer sans créer de révolution, sans créer de débâcle et sans créer de pauvreté, on a le système qui correspond aux règles qu'on a établies en amont.
JB sur cette évolution des règles dans le temps, comme ça, en fonction de l'apparition du problème d'une nuisance qu'on n'avait pas prévu au départ, ou de l'exercice de nouvelles libertés qu'on n'avait pas prévu au départ.
D'abord, évidemment, je suis pour l'évolution et c'est une des choses que j'aime bien, ce que je montre dans l'histoire, c'est à quel point nos communautés ont su évoluer. Je suis ravi de voir qu'à travers la monnaie, vous revoyez derrière poindre la communauté, ces questionnements, je vous chemine et j'en suis ravi. Et donc je suis tout à fait pour que nos communautés continuent à évoluer. En fait, je pense même qu'il est toujours préférable, quand on a une idée de communauté meilleure, d'essayer de repartir d'une communauté existante et de la faire évoluer vers cette communauté meilleure, plutôt que de recommencer une communauté de zéro, ce qui est toujours très difficile à faire. Et oui, donc On peut, par exemple, moi je suis très très largement favorable au revenu de base. Je suis devenu assez indifférent entre revenu de base et employeur en dernier ressort.
Bravo! Ça, c'est
Et
une évolution de ton côté.
oui,
Hein.
ouais. Et je dois te remercier, Stéphane, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le revenu de base. Je suis pas du tout pour. Par exemple, j'explique très bien que à la fois il faudrait reprendre des choses qu'on avait déjà été capable de faire durant les Trente Glorieuses, mais que aussi faudrait pas, enfin, ce serait pas une sorte d'horizon indépassable de la pensée que notamment les talents, on a très bien fait de l'abandonner pour rester sur le plan le plus strictement monétaire. Je pense non seulement que l'évolution est possible, mais qu'elle se fera de toute façon et que c'est souhaitable. Ça me pose strictement aucun problème. Pour moi, la communauté n'est pas l'absence d'évolution, c'est au contraire son support, parce que à tout seul, en fait, on n'est pas capable de grand-chose, on est peu de choses tout seul. Donc c'est à travers, pour moi, c'est à travers une communauté qu'on est libre. Et c'est justement parce que le néo-chartisme permet à cette communauté de faire beaucoup mieux fonctionner sa devise que ça me plaît tant.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, si on comprend la liberté comme non-nuisance et comprendre qu'effectivement on n'est pas seul, de toute façon c'est un constat, évidemment, si elle n'est pas un minimum défini, eh bien forcément il y aura nuisance, il y aura le voisin qui va empiéter sur son propre champ et on va pas sortir des guerres et des conflits. Alors, ceci dit, je voudrais généraliser un peu le principe qu'on a dit là. Est-ce que vous êtes au courant, hein, sans doute vous l'êtes déjà un peu, parce qu'on a parlé comme ça de ces monnaies, on a compris qu'il y avait des règles derrière, qu'elles ne fonctionnaient pas de la même façon. Bitcoin, c'est pas Ripple, Ripple, c'est pas Filecoin,
L'OpenIDC.
c'est pas OpenUDC. On voit bien que les règles sont différentes, la conception est différente, le principe est différent, la vision n'est pas la même. Et les principes qui sous-tendus sont pas les mêmes. Et on rejoint une notion qu'a développée Olivier Hubert. J'aime bien le citer parce que ça permet de faire référence et on peut aller chercher ce qu'a développé Olivier Hubert. Et je trouve très beau la notion qu'il a développée, mise au point. Ça s'appelle la perspective numérique. C'est-à-dire cette capacité. Avant, on avait cette perspective spatiale qu'on a découvert à la Renaissance, capacité comme ça de représenter dans l'espace avec la perspective, ce qui n'était pas très bien fait avant, et on a compris qu'on pouvait représenter sur un tableau quelque chose qui visuellement nous donnait l'idée de profondeur, et c'était dans des bonnes proportions, etc. Et on a inventé cette notion-là, on l'a mise au point, on l'a perfectionnée. Et là, il y a cette notion de perspective numérique qui est plus abstraite, mais qui est très profonde et très bien vue, je pense, comme thème, c'est de dire, voilà, on est capable aujourd'hui, on devrait être capable de voir le code qu'il y a derrière les objets qu'on utilise. C'est-à-dire de voir est-ce que cet objet, finalement, il répond à un certain nombre de critères, et notamment des critères de liberté, par exemple. Par exemple, typiquement, entre logiciel libre, donc est-ce que l'utilisateur est libre de pouvoir modifier le code de ce logiciel? Est-ce qu'il a accès au code source? Est-ce qu'il est pleinement propriétaire, finalement, de ce logiciel? Ou est-ce qu'il n'est qu'en partie, parce que le code, finalement, lui échappe et qu'il ne peut pas en faire vraiment ce qu'il veut? Ou alors un logiciel privateur, bon, typiquement, le code est fermé, et on peut faire que l'utiliser, c'est que fonctionnel, c'est pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut de l'objet qu'on a. Donc, cette notion, vous l'avez travaillée, vous la comprenez, vous la connaissez déjà, cette notion d'Olivier Hubert, perspective numérique?
Alors moi, je la rattache plus largement à mes propres, enfin, à mes propres recherches, on va dire. C'est-à-dire que de toute façon, il est préférable que la communauté se fasse de manière ouverte et consciente. C'est-à-dire que même si la communauté est toujours quelque chose qui dépasse l'individu, il y aura trop de détails, ça part trop dans tous les horizons, c'est trop arborescent pour qu'un individu puisse maîtriser tous les aspects et savoir s'il est pleinement d'accord ou pas. Il est toujours préférable qu'il ait la possibilité de savoir comment ça fonctionne et comment il en retourne. Déjà parce que je n'aime pas du tout l'idée que la vie serait un piège, c'est-à-dire que quelqu'un naîtrait dans une communauté et qu'il ne puisse pas savoir qu'il soit dans une sorte de labyrinthe dont il n'aurait pas le plan. Et ensuite parce que de toute façon, si on veut que les individus adhèrent à cette communauté, il est préférable très fortement qu'il y ait de la confiance mutuelle et donc que les choses se fassent en vérité.
Gérard, sur
Bah,
cette notion de perspective numérique, vision des codes sous-jacents, des objets, des logiciels et des codes sociaux, des codes étatiques, des codes bancaires, des codes entrepreneuriaux, des codes, etc. Enfin, des codes qui sous-tendent tous les objets physiques ou non physiques avec lesquels on interagit.
on pourrait en parler pendant des heures, mais moi ça me fait penser au code du contrat social qui te met dans une communauté à la naissance où tu ne connais pas le code et où tu as les plus grandes difficultés du monde à le modifier si tu as envie de le modifier parce que le code justement du contrat social il est imposé, il est manipulé par ceux qui l'ont créé au départ et qu'il est difficile de le changer.
Bon, ça peut pas être les mêmes,
Donc
au
on se
niveau d'une
retrouve un
espérance de
peu.
vie, c'est pas forcément, ça peut pas être les mêmes.
Justement, justement. Donc en naissant, tu te retrouves. Enfin, chaque individu, chaque citoyen se retrouve dans un code auquel il, à la création duquel il n'a pas participé. Donc on se retrouve un peu dans ce que tu décris par la perspective numérique. D'un autre côté, bon, je voudrais dire aussi à propos. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est lié au niveau d'Internet. Je pense que le fait que justement nous puissions communiquer même avec des outils privateurs, même avec des sites où nos données sont utilisées pour des motifs publicitaires, le fait que nous puissions maintenant communiquer à grande échelle, y compris avec des gens qui ne parlent pas notre langue ou que nous ne pouvons pas comprendre. Je regardais cet après-midi un site en grec qui parlait de Chypre et j'ai cliqué sur un bouton et je l'ai lu en français. Bon, ça, c'est quand même un outil extraordinaire, même s'il est privateur. Bien entendu, on se lance là dans des notions de, effectivement, code privateur, etc. Mais l'outil lui-même, quand même, est un élément très important, je crois, de la prise de liberté et de la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure. Donc, je pense que on va dans le bon sens, voilà, c'est ce que JB disait, c'est, je crois, on sera d'accord pour dire ça tous les trois. La communauté est lourde, la communauté a beaucoup d'inertie, mais chacun, comme les colibris, met sa petite goutte d'eau et on avance dans le bon sens, je crois. Enfin, c'est ce qu'on
D'accord.
essaye de faire ici, en tout cas.
Donc conclusion, quand même, on est dans la mouise, mais ça pourrait aller mieux.
Voilà, je crois que c'est pas mal, ça.
Oh,
Mais on
ça
sait.
ira mieux, c'est très très probable.
Ça ira mieux demain.
Alors on va conclure là, bien sûr, parce qu'on peut
Et
pas.
aujourd'hui, va mieux qu'hier.
À voir, hein. Il y a des creux, il y a des creux et des bosses quand même. Hein. Dans
Oui,
l'espace-temps, il y a
oui.
aussi des trous noirs dans lesquels
Mais
on peut se retrouver inspiré.
comme disait JB au début, c'est une exponentielle qui monte. C'est une exponentielle avec des hauts et des bas,
Avec des sinusoïdes
mais c'est quand
dedans.
même une exponentielle.
Ouais, c'est là qu'on retrouve cette
Voilà.
notion de à la fois cycle et croissance. Il y a un peu les
L'histoire
deux.
bégaye.
Ouais,
L'histoire
bégayer
bégaye, mais
tout
elle
en croissant quand
bégaye,
même.
bégaye moins.
Tout en
Oui.
croissant quand même. Il peut y avoir des grandes catastrophes. On l'a déjà vu dans le passé avec des gros, gros soucis et des grosses catastrophes avant de repartir. Donc c'est bien là qu'est le souci.
Mais c'est quand c'est dur qu'on apprend.
C'est quand c'est dur qu'on apprend. Ah oui, alors c'est la fameuse phrase. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin.
Et mon copain Mathieu disait, plus qu'on en chie, moins qu'on est con.
Voilà, donc on va terminer là. Je vous remercie tous les deux. Donc je vous rappelle les blogs. Alors JB, tu as avec un livre en formation qui va s'appeler Devise, c'est ça?
Très probablement, j'espère que l'éditeur me laissera ça quand même.
D'accord. Donc ton blog, on le rappelle, c'est très
C'est
intéressant
possible.
puisque c'est le néo-chartalisme. Et puis en plus maintenant, tu as intégré le revenu de base dans la réflexion. Donc c'est pour nous, c'est extrêmement positif, c'est très bon. Mais je le savais au début que ça nous intéressait, le néo-chartalisme.
Ouais.
Je savais que c'était quand même parmi les théories monétaires classiques ou en tout cas ou traditionnelles ou développées,
Ouais.
c'est une des plus proches. Et donc frapper monnaie. Hein, c'est ça, moi je vous
Frappé monnaie
conseille.
au singulier, tout attaché.
Voilà, frappez monnaie, je vous conseille fortement. C'est vraiment si vous intéressez à l'économie, vous êtes étudiant en économie, en mathématiques, en physique, en n'importe quoi, d'un peu scientifique aussi. Mais même si vous êtes littéraire, il faut vous intéresser à ça parce que c'est très bien documenté, il y a beaucoup de références. JB
Et
le.
j'essaie vraiment de vulgariser, hein, c'est pas seulement pour les gros matheux. Hein,
Oui,
voilà.
mais il n'y a pas beaucoup de Français qui défendent cette vision, donc il faut
Oui.
absolument la connaître. Je pense que c'est intéressant
Oui.
pour qui veut comprendre mieux comment ça pourrait être autrement, comment le système pourrait être modifié dans sa vision, dans sa perspective. Et Gérard, alors Gérard, tu es présent sur beaucoup de supports, puisque tu es sur Facebook, tu es sur Twitter, bien sûr, etc. Moi, j'ai quitté Facebook, Twitter, ça c'est terminé. Hein. Je suis sur Movim. Movim, vous viendrez si vous voulez ou pas. C'est libre, entièrement libre et décentralisé. Gérard, surtout, tu diffuses. Évidemment, le mini show de Gérard Fouché, il faut s'abonner parce que ça c'est génial, moi j'adore. Alors c'est du Gérard Fouché, donc faut aimer ça. On sent que tu as fait du théâtre, qu'on sent que tu aimes ça. C'est rigolo, c'est marrant et c'est très didactique. Et bien sûr, ton livre qu'il faut prendre parce que les secrets de la monnaie, vraiment, ça permet quand même pour celui qui veut comprendre et qui ne connaît rien en monnaie d'avoir un très fort niveau à la fin du livre. Hein. Ça permet quand même de voir. Comment le système fonctionne et ne marche pas, et comment aussi tu donnes des perspectives à la fin, on suppose qu'il y aura sans doute une suite bientôt. Les secrets de la monnaie, ça vous explique quand même pas mal les choses, et c'est très très bien, assez complet, très complet, et tu cites la théorie relative à la monnaie dedans, ce qui est très bien. Et les néo-chartalistes aussi, tu les cites. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant de cette émission des livres, avec évidemment notre générique fétiche. Ne rêvez plus, No More Dreams de Nighter en licence libre. À bientôt!